Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus à ce café scientifique qui est consacré à la reconnaissance des communautés religieuses dans le canton de Neuchâtel. Merci d'être venus malgré la chaleur et plutôt que d'aller au bord du lac. La reconnaissance des communautés religieuses dans le canton de Neuchâtel, c'est un sujet d'actualité à deux titres au moins. D'abord et surtout parce que le Grand Conseil devrait se prononcer cet automne sur un projet de loi qui va statuer sur les conditions et les effets de la reconnaissance des communautés religieuses par le canton. Et ensuite parce que la reconnaissance des communautés religieuses est aussi un des nombreux sujets d'études du pôle de recherche nationale des migrations et de la mobilité, le NCCR On The Move, qui est basé à l'Université de Neuchâtel. Et le NCCR On The Move fête cette année ses 3 ans et il organise demain et après-demain un colloque international sur la migration et la mobilité. D'ailleurs, notre dernier dossier UniNews est consacré au NCCR On The Move, et là vous pourrez voir toutes les recherches qui se font à l'Université de Neuchâtel sur la problématique des migrations, et vous les avez à disposition sur les tables et à l'entrée. Vous avez un autre document à votre disposition, c'est un document qui a été écrit par notre intervenante Stéphanie Court, justement sur la reconnaissance des communautés religieuses dans le canton de Neuchâtel. Il est aussi à votre disposition. Pour en revenir à notre café scientifique, il va se dérouler de la manière suivante. Dans une première partie, je vais brièvement vous introduire le sujet. Ensuite, nos invités vont se présenter et ils répondront à quelques questions pour cerner les enjeux de la reconnaissance et expliquer leur position par rapport à ces enjeux. Et dans une deuxième partie, c'est vous, le public, qui pourrez intervenir pour poser des questions, pour expliquer votre position. Je vois d'ailleurs que dans le public, on a de nombreuses personnes qui sont très au fait de la problématique, donc on se réjouit de les entendre. Pour introduire brièvement le sujet, il faut rappeler qu'en Suisse, les rapports entre l'État et les églises sont du ressort de chaque canton. Donc, on a en Suisse 26 manières de régler cette question. Dans le canton de Neuchâtel, la situation est la suivante. L'État reconnaît 3 églises comme étant d'intérêt public. L'église réformée évangélique, l'église catholique romaine et l'église catholique chrétienne, qui représente, disons, grosso modo, à peu près 60% des adhérents à une communauté religieuse. Le fait d'être reconnu comme une institution d'intérêt public procure toute une série d'avantages. Je vous donne quelques exemples, mais on y reviendra plus tard. Par exemple, le pouvoir donne la possibilité d'avoir une aumônerie dans les hôpitaux ou dans les prisons. Elle donne aussi la possibilité que les impôts d'église soient encaissés par l'État et redistribués aux églises. Et elle permet aussi aux églises reconnues d'être des interlocuteurs privilégiés pour l'État dans toutes les questions qui touchent à la religion. L'État de Neuchâtel reconnaît 3 églises, mais il existe beaucoup plus de communautés religieuses dans le canton. Alors, je me suis basée sur les chiffres qui ont été donnés par le communiqué du canton de Neuchâtel. On vient de me dire que ces chiffres sont bien loin de la réalité. Alors, on parlait dans ce communiqué d'une 12aine d'autres communautés chrétiennes. Semble-t-il qu'il y en a bien plus. 9 communautés musulmanes, je ne sais pas s'il y a plus que 9 communautés musulmanes, vous nous direz ça tout à l'heure. 4 communautés bouddhistes, 1 communauté israélite et 1 communauté brahi. Alors, toutes ces communautés représentent grosso modo 7 à 10% des adhérents à une communauté religieuse dans le canton de Neuchâtel. Ces dernières années, on a vu une augmentation significative des communautés musulmanes et des communautés chrétiennes d'obédience évangélique. C'est pourquoi la nouvelle constitution cantonale neuchâteloise, qui est entrée en vigueur en 2000, a prévu que d'autres communautés religieuses que les trois églises officielles puissent faire des démarches afin d'être reconnues comme d'utilité publique aussi. Alors le processus a été très long parce qu'on est, déjà en 2017 et c'est toujours pas fait. Et ce n'est qu'en 2016 qu'un projet de loi a été accepté par le Conseil d'État. Et ce projet de loi devrait prochainement passer devant le Grand Conseil et entrer en principe en vigueur le 1er janvier de l'année prochaine. Alors nous allons tout de suite voir quels sont les enjeux de ce projet de loi et la position des différentes communautés concernées, puisque c'est elles qui devraient faire les démarches pour être reconnues et voir si véritablement cette loi répond à un besoin qu'elles ressentent. Mais d'abord, je vais laisser nos invités se présenter. Alors, je commence par vous, Monsieur Favre.
Alors, Olivier Favre, je suis représentant de la Fédération évangélique neuchâteloise, la FEN. Je suis pasteur d'une église évangélique ici à Neuchâtel. Et nous avons déposé une demande de reconnaissance d'intérêt public dans la foulée de l'adoption de la nouvelle constitution, donc il y a 16 ans. Et depuis, on a relancé cette demande à plusieurs reprises. Et c'est une des raisons pour laquelle, à un moment donné, un conseil d'État s'est, disons, démarqué, s'est mobilisé pour que les choses avancent.
Bonsoir, bonjour. Je m'appelle Stéphanie Court, je suis postdoctorante au NCCR en Nemouf et puis aussi au Centre Suisse de compétences pour les droits humains. Pourquoi je suis là? Je pense aussi parce que j'ai écrit ce policy brief qui traite le sujet de l'incorporation des communautés religieuses au sein de la législation, surtout cantonale. Et puis j'ai aussi fait ma thèse sur ce sujet des minorités religieuses, plus précisément sur l'interdiction de la discrimination religieuse en lien aussi avec la liberté de religion ici en Suisse.
Merci, bonsoir. Je m'appelle Jamel Chérif. Je représente l'UNOM, l'association fêtière, qui regroupe 8 associations musulmanes, l'Union neuchâteloise des organisations musulmanes. Et je suis en qualité de porte-parole de cette association fêtière et vice-président.
Bonsoir, je m'appelle Taïkou Morales. Je suis non-bouddhiste de la tradition Zen Soto. Je représente cette tradition et également le groupe du dialogue interreligieux de Neuchâtel.
Bonjour, Bertrand Leitenberg. Je suis le président de la communauté israélite du canton de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds, qui est devenue maintenant une petite communauté. Et nous n'avons pas encore pris de décision définitive par rapport à la proposition. Première chose, il faudra déjà qu'on puisse connaître la loi définitive avant de pouvoir prendre position. Mais sur le principe, c'est vrai que c'est une belle avancée que de reconnaître différentes religions dans le canton.
Alors, vous voyez que les principales communautés qui sont concernées par cette nouvelle loi sont présentes et pourront expliquer quelle est leur position et quelles sont leurs interrogations. Mais je m'adresse tout de suite à vous, Stéphanie Court. Je crois que Oui, c'est bon. Oui. Je m'adresse tout de suite à vous, Stéphanie Court. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux de cette reconnaissance tant pour l'État que pour les communautés? Quelles sont les conditions de la reconnaissance, les effets de la reconnaissance?
Est-ce que ça fonctionne? Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Comme vous avez déjà dit, en fait, en Suisse, la compétence de régler la relation entre les communautés religieuses ou l'Église et l'État, c'est lié au canton. Ça veut dire, en Suisse, on peut s'imaginer, on a 26 cantons, ça veut dire on a 26 différents systèmes de traiter ce sujet des communautés religieuses. Et c'est clair que c'est très diversifié. Et puis, si on regarde maintenant la proposition de la loi, ici dans le canton Neuchâtel, il faut tout d'abord dire que c'est une très jolie proposition d'une loi. Pourquoi? Parce que cette loi règle, en fait, toutes les conditions, la procédure et puis les effets de la reconnaissance étatique ou la reconnaissance comme un intérêt institution publique. Ce qui concerne les conditions qui sont inscrites dans cette loi, et ça c'est vraiment une liste avec différents mots-clés que je vais juste vous dire, c'est que la communauté qui demande cette reconnaissance doit avoir une certaine forme juridique. Ça veut dire que cette communauté doit être une association au sein du Code civil suisse, avec siège dans le canton de Neuchâtel. Et puis aussi, il faut avoir une transparence au niveau du financement et, bien sûr, les activités culturelles. Également, cette communauté doit reconnaître du caractère contraignant de l'ordre juridique suisse, le respect de la paix religieuse, le rôle social et culturel auprès des membres, et puis aussi l'exercice d'une activité culturelle régulière sur le territoire cantonal. Vous voyez, déjà là, les critères sont très larges. Également, et ça c'est très important, les statuts de cette association ou de cette communauté religieuse doivent préciser les conditions d'admission et d'exclusion des membres, y compris le droit inconditionnel de quitter en tout temps la communauté. De plus, les personnes responsables religieux et administratifs de la communauté doivent maîtriser la langue française de manière à pouvoir dialoguer avec les autorités. Maintenant, si on regarde la procédure, comment la loi propose en fait de la procédure de la reconnaissance? Là, il faut dire qu'il s'agit d'une procédure de 3 étapes. Tout d'abord, cette procédure commence par le dépôt de la demande par la communauté religieuse auprès de l'autorité. Ça veut dire que la communauté demande officiellement d'être reconnue. Après, les autorités compétentes font un examen formel de la requête et finalement, c'est le Grand Conseil qui confirme ou rejette la reconnaissance sur proposition du Conseil d'État. Un référendum est possible contre le décret qui va être délivré par le Grand Conseil. Et puis, la durée concernant la procédure, c'est prévu que ça ne peut pas dépasser 5 ans. Maintenant, si on a la reconnaissance et puis la procédure, c'est clair, il faut aussi parler des effets de la reconnaissance. En fait, il y a les effets sont réglés dans le chapitre 4 de cette proposition. Et il s'agit de l'attribution de subventions, l'exonération fiscale, les contributions volontaires des membres, la participation à la vie publique, l'enseignement religieux dans les locaux de l'école publique et puis aussi, comme c'est déjà mentionné, l'aumônerie. Pourquoi j'ai dit au début c'est une belle loi? Parce que en fait, si on parle plutôt juridique, il faut s'imaginer avec la reconnaissance, il y a toujours un effet avec. Et si on fait la comparaison avec d'autres cantons ici en Suisse, on voit souvent il y a la possibilité de la reconnaissance, mais après les effets sont réglés dans les différents domaines de la législation. Et la proposition neuchâteloise, c'est une loi qui contient tous les éléments en même temps. C'est vraiment, on dit en droit, c'est un système d'incorporation. C'est un système d'intégration pour les communautés religieuses qui est fait dans une seule loi et pas diversifié ou dispersé dans les différentes législations cantonales. Parce que s'il y a vraiment les différentes lois, il faut toujours vérifier, OK, si je suis reconnue auto-association, quel effet il y a maintenant, et il faut vérifier toutes les lois qui sont là. Et ça, c'est très bien fait ici. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, on se rend compte que la reconnaissance offre effectivement un certain nombre d'avantages, mais elle permet aussi à l'État d'exercer un contrôle plus étroit sur les communautés religieuses, puisque une association, finalement, on est assez libre, alors que une communauté religieuse reconnue doit répondre à toutes sortes de conditions, ce qui fait qu'elle sera beaucoup plus contrôlée. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si chacune des communautés qui sont présentes, un certain nombre d'entre vous nous ont déjà dit qu'ils avaient fait le pas. Oui, ils vont demander la reconnaissance. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi. Alors, je vais de nouveau commencer par vous, Monsieur Favre. Vous nous avez dit que vous avez décidé, la FEN, donc toutes les églises évangéliques, de franchir le pas. Pourquoi? Et la balance entre les avantages et les désavantages, comment vous le voyez?
Donc peut-être que c'est important au préalable de préciser que, pour resituer les choses d'un point de vue historique, les églises évangéliques font partie de la grande famille protestante. On a d'un côté, en Suisse en particulier, en Europe en général, les églises réformées ou luthériennes qui sont bien connues, qui sont reconnues, qui sont même officielles, et les églises évangéliques qui sont, d'un point de vue historique, quelquefois en marge, plus en marge du courant principal protestant, mais qui sont néanmoins protestantes, et surtout qui se distinguent par une diversité de dénominations, de noms différents. Ça ira de l'Armée du Salut aux églises ménonites, en passant par les églises libres, etc. Enfin, il y a toute une série d'églises évangéliques, et parfois on s'y perd un peu, c'est vrai. Et du coup, l'attitude de ces églises évangéliques n'a pas toujours été identique, et en particulier les ménonites, qui sont issus des anabaptistes, qui ont 500 ans d'histoire derrière eux, ont un rapport à l'État très bienveillant, mais disons un peu prudent. Donc, parmi les évangéliques, les ménonites sont moins favorables à une demande de reconnaissance d'intérêt public. Par contre, d'autres évangéliques, ils sont très favorables. Il faut savoir, par exemple, qu'au début du 19e siècle, donc ça remonte un peu, à une époque où la démocratie n'était pas encore une réalité, ce sont les évangéliques, par exemple, sur Genève, qui ont favorisé, disons, qui ont été un catalyseur pour l'avènement de la démocratie. Donc, on a dans la famille évangélique protestante différents courants, différentes positions. Mais je dirais qu'aujourd'hui, largement, s'impose l'idée d'être proche, disons, d'être impliqué dans la société. Et l'idée d'une reconnaissance, c'est d'être pas tellement être reconnu en tant que tel, parce que ça changera pas beaucoup de choses, mais surtout de pouvoir contribuer au bien social de manière libre et sans gêne. Maintenant, c'est vrai que ça offre certains privilèges, comme vous le disiez, peut-être l'aumônerie. Je terminerai avec cet exemple. D'un autre côté, si un pasteur évangélique va aller visiter un membre dans une qui est hospitalisé, ça pose aucun problème. Donc, je pense pas que là il y ait beaucoup de différences par rapport à ce qui se vivrait aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus l'idée d'être partenaire pleinement de la société, partenaire social, partenaire vis-à-vis des autorités, et de contribuer pleinement en tant que chrétien à l'épanouissement de la société d'aujourd'hui. Je crois que c'est ça la motivation profonde.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander quelle est la position de l'UNAM ? Est-ce que vous êtes décidé ou hésitant ? Quel est le pour et le contre ? Est-ce que toutes les composantes de l'UNAM sont unanimes ? Ou est-ce que vous avez aussi des dissidents comme dans l'église, dans la FEN ?
Je peux bien peut-être dire que l'association FETER, l'UNAM, qui représente 8 associations sur 10 qui existent sur le canton, on est tous d'accord de se lancer dans cette procédure, de faire la demande auprès des autorités compétentes pour obtenir ce statut officiel et sortir un petit peu de l'officieux. Je pourrais bien dire que la reconnaissance existe déjà de fait. Donc, il y a des formes de collaboration et d'échange entre l'État et les communautés religieuses musulmanes. Que ce soit à travers l'UNOM qui est assez récent ou aussi avec les différentes associations membres auparavant. Donc cette reconnaissance de fait émane d'une reconnaissance de la nécessité d'un travail sérieux de collaboration, d'échange avec ces communautés. Cet échange s'avère difficile sans que ces associations ne soient impliquées dans le travail. Et sans qu'elle ne soit aussi une partie prenante pour assurer une certaine intégration fournie par différentes institutions de l'État déjà. Cette intégration que l'État de Neuchâtel, bien sûr, à laquelle aspire finalement, c'est une intégration active et inclusive. Donc elle n'a pas de sens sans que ces associations ne soient une partie prenante. Alors, quand on parle du projet de loi qui est le dernier mandat, hein, donc d'après la Constitution de 2000, on arrive au bout, c'est le finish, on parle plutôt d'un cadre légal. Donc, on sort du fait au droit. On cherche la reconnaissance de droit public de notre existence en tant qu'association qui œuvre pour aussi une certaine ouverture à la population neuchâteloise, et qui aussi doit assumer un rôle actif à jouer pour le bien commun de tout le monde. Ce cadre légal, bien entendu, est assuré par des articles de la Constitution, en principe, hein, l'article 15 sur la liberté de la religion, l'article 8, alinéa 2, sur l'interdiction de la discrimination basée sur la religion. Donc, reste le problème comment appliquer ces principes. Les principes sont toujours beaux, mais l'application après, donc, entérine quelques difficultés et quelques complications. Alors, en examinant le projet de près, que nous avons constaté en tant qu'association fêtière l'UNOM que notre association remplit les conditions de cette loi, donc que cette loi préconise, et aussi on a constaté que la reconnaissance a un effet important, que ce soit sur les communautés religieuses elles-mêmes ou sur la société civile et la population en général. Alors, si on reconnaît les communautés religieuses musulmanes, alors on résout un problème de représentativité. Donc, si on reconnaît, par exemple, l'UNOM comme association fêtière, qui regroupe 8 associations qui parlent au nom des musulmans du canton, la majorité, donc il n'y aura plus ce problème de représentativité. On sait très bien que les musulmans sont divisés en ethnies différentes. Il y a les Bosniaques, il y a les Albanais, les Turcs, les Arabes et autres, les Pakistanais. Donc, des langues diversifiées, différentes provenances, etc. Donc, quand on reconnaît l'UNOM en tant que représentant de ces communautés qui se regroupent ensemble, on résout ce problème. Deux, il y a aussi l'engagement de l'UNOM à travers ce cadre légal peut-être montre une certaine ouverture envers ces communautés musulmanes. Je souligne surtout l'attitude des jeunes qui ont un sentiment un peu fort d'injustice et ils sont sensibles à l'idée d'égalité quand ils voient que la communauté musulmane est toujours à la marge et dans l'ombre, elle n'est pas reconnue par une disposition légale claire. Donc ça pourrait aussi générer quelques tensions, voire une certaine démission. Donc ils ne jouent pas leur rôle qu'on espère d'eux en tant que génération de l'avenir. Pourtant, ils sont nés ici et puis ils sont peut-être mieux intégrés que l'ancienne génération, je dirais. Voilà pour être clair. Autre chose, les associations musulmanes répondent à un besoin réel. Ce besoin, c'est spirituel. On pourrait bien me dire, peut-être la population n'est pas concernée par ce besoin spirituel, ça concerne les musulmans. Oui, mais les effets concernent peut-être tout le monde. Si des jeunes, par exemple, ou même des musulmans en général, n'ont pas un cadre qui assure un encadrement spirituel correct, conforme à l'esprit de la religion, de manière un peu modérée, en assurant des locaux pour l'accomplissement des cultes, ça c'est un, donc on sait très bien que les musulmans fréquentent leurs locaux de culte 5 fois par jour, donc ça, les plus assidus, les moins une fois par jour, voire une fois par semaine, mais au moins une fois par semaine en général pour les musulmans pratiquants. Organiser aussi les repas pendant le mois de Ramadan. On est au mois de Ramadan, donc on organise, les associations membres, bien sûr, organisent des repas pour la rupture du jeûne pour une centaine de personnes en moyenne. Ça va jusqu'à 150 parfois à la fin du mois. Il y a aussi l'organisation des fêtes religieuses. Il y a aussi, entre autres, l'organisation des cours de langue arabe. Les cours sont importants pour la stabilité identitaire des jeunes. Donc, on en apprend sa langue, on est plus rassuré, on est plus solide dans son identité. Et cela favorise une intégration meilleure, je dirais. Il y a aussi, en tant qu'une homme, on a organisé des manifestations annuelles pour, en fait, appeler la population à un échange, un dialogue, communication avec la communauté religieuse en fournissant un cadre convivial. Cela a été fait les deux années précédentes. Voilà, donc ça c'est pour dire qu'on fait des efforts aussi pour être ouvert et favoriser un dialogue et communication qui clarifie les choses peut-être et montre ce que les musulmans pensent. On reste toujours l'interface des médias et puis les gens n'ont pas accès à ce que les musulmans vraiment pensent et c'est peut-être ces occasions sont précieuses pour aussi être le plus proche possible des communautés musulmanes et puis de comprendre directement de la source ce qu'ils pensent. Alors à part les besoins spirituels, pour être un peu plus concis, Je cite quelques actions d'intérêt public, ce qui fait que on est aussi reconnu de fait. Alors, on participe au groupe de contact musulman il y a depuis 15 ans maintenant. Le groupe de contact est le groupe de COSME, Service de cohésion multiculturelle, qui, en fait, fournit un cadre d'échange intéressant entre les autorités, hein, représentées via un membre de CSIM, et les communautés musulmanes. On transmet nos soucis, nos besoins, nos inquiétudes, et puis on traite les sujets avec des spécialistes, et la qualité d'échange de communication est excellente. Je dis en connaissance de cause parce que je suis plus ou moins régulier, hein, depuis 12 ans au groupe de contact musulman, et je connais très bien la qualité d'échange effectué. Il y a aussi l'aumônerie. On essaie aussi de s'approcher des malades dans les hôpitaux. On est sollicité par le service de pompes funèbres en cas de décès d'un musulman pour faire le nécessaire suivant les rites musulmans. Aussi, on est sollicité par le service pénitentiaire pour donner des serments de vendredi pour les prisonniers musulmans. Et puis, je pense que les directeurs des prisons jugent mieux que nous la nécessité de ce discours qui calme les prisonniers au moins 3 jours. Donc, les chefs de la prison nous prient souvent de venir régulièrement parce que c'est nécessaire, notre intervention. Ça fournit un cadre spirituel aussi qui rassure, hein, les musulmans qui sont dans cette situation de détresse, finalement. Donc, la reconnaissance pour nous, c'est une valorisation de tout ce travail, cet échange, cette collaboration précieuse qui a déjà commencé depuis quelques années. Et cela nous permet d'optimiser aussi et rendre plus efficaces nos actions. Et cela encourage davantage les communautés membres et les associations membres de s'engager activement et de jouer leur rôle. Merci.
Merci beaucoup. Vous représentez une des plus grandes communautés concernées. Vous-même, vous représentez une des communautés les plus petites. Et quel est votre point de vue et quelle sera votre décision par rapport à la démarche de la reconnaissance ?
Oui, j'aimerais bien préciser effectivement que je ne peux pas parler au nom de tous les bouddhistes ici. Je ne peux parler qu'au nom de ma communauté qui est toute petite. Pour nous, la reconnaissance n'est peut-être pas une première urgence. Nous n'avons pas une position très claire là-dessus. La raison est essentiellement que nous sommes peu concernés par les problèmes d'immigration, par exemple. La grande majorité de nos membres sont des Européens, donc nous n'avons pas vraiment un problème à ce niveau-là. Nous sommes une association, la loi associative est tout à fait suffisante pour notre fonctionnement de petite communauté. Ça fonctionne très bien, la loi suisse est assez suffisante pour ça. Donc ce n'est pas une première nécessité. Mais il est vrai que les questions d'enseigner dans les écoles ou de former des enseignants ou d'être reconnu dans l'aumônerie, ça c'est intéressant. Parce qu'il est clair que c'est bien que toutes les religions soient représentées à ce niveau-là. Pour l'instant, nous avons de temps en temps des demandes d'un hôpital ou on n'a pas encore eu dans les prisons, mais... voilà, ça nous arrive de temps en temps. On peut tout à fait faire face à ça. Il n'y a pas de problème. On peut y aller sans que ça soit compliqué. Pour le moment, c'est comme ça pour nous.
Merci beaucoup. Monsieur Leitenberg, vous représentez la communauté israélite. C'est aussi une communauté relativement petite, mais par contre, qui a toute une histoire dans le canton de Neuchâtel. Vous nous avez dit que vous hésitiez encore. Alors, quels sont les termes de l'hésitation? Quel est le pour? Quel est le contre?
Merci. Fondamentalement, je dirais que cette loi va peu nous changer de choses. Par contre, ce qui nous semble important, c'est justement d'être reconnu. Et peut-être par notre ancienneté, je vais peut-être vous raconter un petit peu le chemin qu'a fait la communauté israélite, qui va vous donner la raison pour laquelle on y sera certainement favorable. La communauté israélite a été fondée à la Chaux-de-Fonds en 1833 Et c'est petit à petit intégré plus ou moins difficilement, principalement dans le haut du canton, pendant un certain nombre d'années. Durant la deuxième partie du 19e siècle, période de grand développement, où la communauté s'est beaucoup impliquée dans le développement de l'industrie, d'industrie locale, l'industrie horlogère, donc elle a pu, en tant que communauté, apporter aussi quelque chose de positif à la région. Et petit à petit, en réussissant à se développer, elle a pu construire sa synagogue en 1896, donc qui est déjà quelque part une grande reconnaissance de la région d'accepter qu'une telle synagogue puisse être construite dans le canton. Puis, dans la première partie du XXe siècle, c'est le moment où la communauté a été la plus grande, à savoir environ 1000 juifs à La Chaux-de-Fonds. Et notre communauté s'est aussi largement impliquée dans la vie associative de la région en intégrant, en participant au développement de la salle de musique ou du théâtre, dans l'activité sportive aussi. Donc elle a pu, cette communauté, amener aussi du positif à la ville et au canton en général. Puis, dans la deuxième partie du XXe siècle, la communauté a commencé à diminuer pour différentes raisons. La plus importante, c'est l'assimilation, c'est-à-dire à force de se sentir bien intégré, certains ont perdu leur propre identité. D'autre part, aussi pour des raisons économiques, elle s'est déplacée dans les grandes villes de Suisse romande, Genève, Lausanne, ou en Suisse ou à Zurich, et une partie aussi est partie en Israël. Ceux pour qui l'identité était importante, ils sont plutôt allés dans des régions dans lesquelles c'était plus facile de vivre en tant que juif. Et actuellement, il reste dans le canton, membre de la communauté, une centaine de personnes environ, ce qui correspond environ au 0,2% de la population, c'est vous dire si on est devenu petit. Il y a actuellement une belle exposition au musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds qui parle des 150 ans d'égalité de droits des Juifs en Suisse et également une belle exposition sur justement cette intégration de la communauté juive de La Chaux-de-Fonds dans la ville, de ce qu'elle a pu apporter, mais aussi des difficultés qu'il y a eu durant cette période-là. Et la communauté, l'année dernière, pour fêter les 120 ans de sa synagogue, a proposé beaucoup d'activités aux habitants du canton, avec des concerts, des conférences, des spectacles, des visites de la synagogue. Donc, ça fait très longtemps qu'il y a une grande volonté d'ouverture. Cette volonté d'intégration n'a pas toujours été facile, et c'est la raison pour laquelle ça me semble impensable que la communauté juive puisse ne pas accepter une reconnaissance qui correspond en vrai plutôt à un aboutissement. Et l'autre chose que je trouve positive dans cette proposition de loi, c'est aussi de reconnaître la réalité d'une diversité religieuse, puisque dans le canton comme ailleurs, on ne peut plus dire qu'il y a une seule religion. Et les religions peuvent aussi être un endroit de discussion et d'apprentissage pour la société. La preuve, il existe dans le canton de Neuchâtel un groupe de dialogue interreligieux qui comprend les différentes communautés chrétiennes, la communauté bouddhiste, la communauté bahaï, les communautés musulmanes, les runes, enfin une multitude de communautés qui sont tout à fait capables de discuter ensemble. Et c'est certainement dans cet esprit-là qu'on va pouvoir développer le religieux.
Merci beaucoup. Alors on voit que la tendance est plutôt l'acceptation avec enthousiasme de la reconnaissance et la volonté de faire la démarche. On se rend compte aussi en entendant les représentants des différentes communautés que la problématique dépasse largement la problématique de l'intégration, puisqu'en fait la plupart des représentants des communautés sont parfaitement intégrés, ils sont là depuis très très longtemps. Donc la problématique de la reconnaissance des communautés religieuses n'est pas seulement une problématique de l'intégration, de la problématique de l'intégration, mais bien une problématique de l'égalité de tous les représentants des différentes communautés religieuses face à l'État. Maintenant, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est de savoir si, vous êtes tous au courant de, vous avez tous lu le projet de loi qui sera peut-être un peu modifié, mais qui sera grosso modo présenté tel quel au Grand Conseil. Et est-ce que dans ce projet de loi, il y a quand même des choses qui vous chiffonnent, parce que on se rend compte malgré tout que c'est pas tout à fait un traitement égalitaire entre les trois églises reconnues officiellement et les futures communautés religieuses qui seront reconnues. Il y a un certain nombre de choses qui ne seront pas égales. On va pas, par exemple, examiner de la même manière d'où viennent les fonds des églises déjà reconnues, mais par contre on va peut-être examiner avec plus de soucis d'où viennent les fonds des futures des communautés qui seraient reconnues à l'avenir. Et j'aimerais vous entendre sur cette loi, et si vous souhaiteriez qu'il y ait des amendements ou s'il y a des choses qui vous chiffonnent encore. Monsieur Favre.
Alors je dirais que non, la loi telle qu'elle est prévue me paraît pas particulièrement contraignante, et même si elle l'était, pourquoi pas s'y soumettre. Non, il y a une offre par contre qui est présentée comme un avantage, ce serait la contribution ecclésiastique, c'est-à-dire que l'État organise la contribution ecclésiastique pour les églises reconnues, et ça pour les églises évangéliques ne serait pas nécessaire à mon avis, parce que les églises évangéliques, c'est-à-dire que comme sur Genève, le canton de Neuchâtel a une situation particulière pour les églises, c'est-à-dire que les pasteurs, les prêtres ne sont pas financés directement par l'État, mais par contre l'État offre ce service de prélever la contribution ecclésiastique, donc c'est pas un impôt mais c'est une libre contribution. Maintenant, dans les églises évangéliques, ce sont les fidèles, si on veut, les membres des églises qui sont des donateurs. Et le système actuel fonctionne tel quel, et ce serait pas nécessaire de passer via l'État. Donc là, c'est une offre qui, à mon avis, serait pas très utile. Mais sur le reste, par rapport aux exigences, au contraire, c'est des exigences qui me paraissent tout à fait en accord avec, d'une part la liberté religieuse, d'autre part avec la démocratie, enfin avec toutes ces valeurs qui sont appréciées. Donc non, je vois vraiment, tel que la loi est présentée, vraiment, on n'a vu absolument aucun inconvénient à demander une reconnaissance, aucun.
Merci beaucoup. Je m'adresse à la juriste quand même. Vous qui avez examiné la loi de fond en comble, est-ce que vous partagez l'opinion de Monsieur Favre? Je crois qu'il ne faut pas toucher. Hein.
Voilà, oui, très bien, merci beaucoup. J'ai juste encore une remarque par rapport à ce qu'il était discuté avant. Je pense que c'est important, il ne faut pas mélanger le sujet de l'immigration et la reconnaissance des religions ici en Suisse. Pourquoi ? Parce que depuis des années, le paysage des communautés religieuses change en Suisse. Et on voit, si on voit un petit peu les nombres, les statistiques, que la majorité des personnes quittent les églises national, officiel, reconnu dans les cantons. Ça veut dire qu'il y a vraiment une augmentation des nombres des personnes qui sont considérées comme sans religion. Et bien sûr, un des petits, mais vraiment petits facteurs à cause du changement de paysage religieux en Suisse, c'est la migration ou l'immigration. Mais ça, c'est vraiment, c'est très petit, c'est pas ça. Si on parle de la reconnaissance des communautés religieuses, en connexion avec l'intégration, comme j'ai déjà dit avant, là, il s'agit vraiment, c'est un système d'incorporation. Depuis des années, la Suisse a fait une législation en faveur des communautés chrétiennes, les églises nationales. Et maintenant, si on discute ce sujet de la reconnaissance, il s'agit aussi d'ouvrir les institutions sous l'angle de l'égalité de traitement. Ça veut dire d'ouvrir les institutions, les bases légales pour d'autres communautés religieuses qui ont un certain nombre, qui ont une certaine importance sur le plan culturel et social. Et c'est pas forcément que des communautés religieuses qui sont composées par des migrantes. Voilà, c'est juste pour ajouter ce sujet. Je pense que ça, c'est très important. Bien sûr, si on regarde après ce système d'incorporation, il y a un effet réciproque. Ça veut dire, c'est les cantons
qui peuvent décider, basés sur des critères, sur des critères objectifs, qu'ils aiment bien reconnaître. Et après, en même temps, les cantons, les autorités octroient aussi des droits, des privilèges qui vont avec. Ça veut dire, là, c'est un effet réciproque. Il y a les deux. Ou en anglais, on dit check and balances. Il y a les deux qui sont respectés. C'est ça qui est prévu aussi par cette proposition neuchâteloise. Et où j'étais? Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire, juste pour clarifier le point. Et si je peux, comment on dit, désirer quelque chose où j'aimerais bien changer dans cette loi, pour moi, c'est, comme on a vu dans aussi d'autres cantons, c'est la reconnaissance, comme c'est prévu maintenant dans le canton de Neuchâtel, c'est une reconnaissance faite par les institutions politiques. C'est une décision politique. Et avec l'expérience qu'on a déjà dans les procédures de la naturalisation, et là il y a aussi de jurisprudence là-dessus, c'est clair que des décisions politiques risquent toujours d'être discriminatoires. Ça veut dire, autant juriste, qui est quand même très lié à des institutions fortes, je dirais que ce serait désirable d'avoir une procédure plutôt administrative que politique. Voilà.
Parce qu'en fait, c'est le Grand Conseil qui décide.
Oui, je peux peut-être répéter, c'est le Grand Conseil, Grand Conseil confirme, rejette la reconnaissance sur proposition du Conseil d'État, et puis un référendum est possible contre ce décret. Et si on compare par exemple la situation du canton Bâle-Ville, là, ils ont vraiment mis dans la constitution, je me rappelle bien, que le référendum contre une telle décision est exclu. Ça veut dire qu'il peut pas avoir après une vote cantonale. Et ça, c'est pas exclu avec la proposition actuelle du canton de Neuchâtel. Voilà.
Merci beaucoup. Et vous-même, est-ce que vous avez des vœux par rapport à la loi, ou est-ce que vous êtes entièrement satisfait par le projet de loi tel qu'on le présente?
Nous sommes principalement satisfaits par la loi, donc c'est un pas très positif, une belle avancée aussi. Mais en examinant le projet de loi, et puis en mobilisant quelques membres juristes pour juste examiner et puis donner un avis, on a compris que cette question de procédure administrative à critères objectifs qui était souhaitable pour garantir ce droit et puis assurer une meilleure application de ce droit, c'était la solution la plus peut-être convenable au lieu de passer par un processus politique compliqué et puis après donc on risque de glisser, comme l'avait dit tout à l'heure Madame Courte. On glisse à la discrimination sans aucun doute. Une deuxième chose, c'est que en fait, il y a dans la loi l'interdiction de la déduction des dons, des impôts des personnes morales. Alors c'était un point qu'on a reproché parce que pour nous c'était une question de d'égalité, donc. C'est vrai que les trois églises déjà reconnues ont ce privilège, si j'ose dire, entre guillemets, privilège. Mais donc, dans quel sens on pourrait bien dire que la chronologie joue un rôle déterminant pour diminuer les droits d'autres communautés? Donc, ça n'a pas de sens. Peut-être si le canton était chrétien, moi personnellement, je comprends très bien. Donc, c'est la tradition du canton, etc. Mais quand on dit un canton laïque, C'est difficile d'aller dans ce sens et puis de faire cette discrimination en termes de fiscalité. Voilà.
Merci beaucoup. Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Favre?
Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, mais il n'y a pas de possibilité de déduction de la contribution ecclésiastique ni des dons faits aux églises dans le canton de Neuchâtel. C'est possible dans le canton de Genève, par exemple. Il y a d'autres cantons qui le prévoient, mais ni maintenant, ni après l'adoption de cette loi, ce sera possible de déduire les dons, la contribution ecclésiastique, enfin, tout argent qui est donné à une communauté religieuse. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible pour les catholiques. Maintenant, c'est pas possible pour les réformés non plus. Alors, il y a des initiatives, il y a des idées, il y a certaines personnalités politiques qui aimeraient changer ça. Mais pour l'instant, personne ne bénéficie à ce niveau-là d'une déduction. Là, par contre, la différence, c'est l'exonération pour les églises. Alors, les églises reconnues actuellement bénéficient d'une exonération à 100%. Nous, les évangéliques, par exemple, on bénéficie d'une exonération à 100% pour l'association, pour les dons, vous certainement aussi. Par contre, on a une exonération à 50%, par exemple, sur la taxe en cas de vente immobilière. On exonère à 50% et non à 100% comme les églises reconnues. Donc, il y a des petites différences. Mais sur le fond, on est déjà exonéré en tant qu'association sans but lucratif et surtout à but cultuel. Et là, c'est une directive fédérale qui fait foi et les cantons s'alignent sur la directive fédérale.
Merci beaucoup. Pour nous, c'est très compliqué, en fait. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous comprennent bien les nuances. Moi, ça m'échappe un tout petit peu. Je pense que ce sera des débats qui auront lieu entre spécialistes. Vous-même, Madame Morales, est-ce qu'il y a des... Vous avez étudié ce projet. Est-ce qu'il y a des articles qui vous dérangent ou bien finalement, ça vous va bien?
Alors, je dois vous avouer que je ne me sens pas du tout compétente pour... parler de ces articles en détail. Nous, on ne voit ni un immense inconvénient, ni un immense avantage. Pour nous, ça serait un peu pareil. L'histoire de perception des impôts, on n'en aurait pas vraiment besoin. En tout cas, dans l'état actuel des choses, parce qu'en réalité, nous, nos membres, ils versent une cotisation et payent les prestations que nous fournissons. C'est-à-dire, s'il y a un week-end de pratique, ils payent pour le séjour et on fonctionne uniquement avec ça. Et donc, on n'a pas des donateurs et des gens qui reçoivent. On est tous égaux, en fait, dans la communauté.
Merci beaucoup, Monsieur Leitenberg.
Comme je le disais, en réalité, ça ne va pas nous changer grand-chose non plus, puisqu'on a notre propre système de cotisation pour les membres. Et certainement qu'on ne va pas utiliser la proposition de l'étape d'une perception par l'État lui-même. Des salles de cours, on n'en a pas besoin. On n'a malheureusement plus beaucoup d'enfants. Et puis, on a la synagogue, donc on n'a pas vraiment beaucoup d'utilité à ce niveau-là. Comme certains l'ont dit, les visites dans les prisons ou à l'hôpital sont déjà possibles. Donc, honnêtement, ça nous changera très peu de choses par rapport aux propositions qui sont faites. Ça me semble pas gênant. On comprend bien qu'on est dans une société chrétienne et qu'il y a une histoire qui fait qu'évidemment, des communautés chrétiennes sont reconnues à un autre niveau que nous. Donc, ça pose pas vraiment de questions. Par contre, on peut imaginer peut-être que l'État sera plus prêt à écouter des problèmes ou des questions qu'on aura, nous, si dans l'avenir, on n'aurait plus de difficultés, quelle que soit la difficulté.
Merci beaucoup. Alors là, je vais proposer à la salle de participer au débat, de poser des questions. Puis je vais me permettre de poser tout de suite une première question à quelqu'un qui est dans la salle, c'est Monsieur Wüst, parce qu'on a entendu toutes les communautés qui vont peut-être faire la démarche de la reconnaissance. Mais Monsieur Wüst, vous représentez une église qui est déjà reconnue. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la position des églises reconnues par rapport à cet élargissement de la reconnaissance. Alors, je vous laisse vous présenter aussi.
Oui, je m'appelle Fabrice Wüst et je suis un des deux représentants de l'EREN, donc l'Église neuchâteloise évangélique et réformée, qui est donc une des églises reconnues, donc une église issue de la Réforme. Et alors, nous sommes très, très favorables à cette loi parce qu'on se rend bien compte que l'anthropologie ou la cartographie des religions en Suisse et dans notre canton n'est pas celle d'il y a 100 ans et que en quelque sorte on doit s'ouvrir spirituellement et pratiquement aux autres chrétiens et aux autres croyants et que c'est un enrichissement donc moral, spirituel pour nous, en même temps qu'on espère que ça soit aussi un enrichissement spirituel et moral, peut-être aussi pratique pour les autres.
Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une question ou une intervention? Oui.
Bonsoir, je m'appelle Mohamed Bass, je suis membre de l'UNOM aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, mais il faut quand même reconnaître quand j'entends les différents interlocuteurs, je me rends bien compte que c'est plutôt au niveau des communautés religieuses musulmanes que la question se pose au niveau de la reconnaissance des communautés religieuses, même si on le dit de manière générale. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État a tout intérêt, qu'on le veuille ou non, à ce qu'il y ait une reconnaissance des communautés religieuses de manière générale, et en particulier c'est les communautés religieuses musulmanes, qui est quand même indexée, il faut le dire les choses de manière tout à fait honnête. C'est par un dialogue entre les différentes communautés qu'on arrivera à une paix sociale. On en a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut reconnaître que si, pour X raisons, cette reconnaissance ne passerait pas, ce sera un coup dur pour les communautés, je parle pour les communautés musulmanes, bien sûr, qui s'investissent depuis plusieurs années pour donner une très bonne image de nous, musulmans, dans le canton de Neuchâtel. Combien de fois on nous dit, quand il se passe quelque chose ailleurs, on aimerait vous entendre condamner. Mais jusqu'à preuve du contraire, je me dis, est-ce qu'on doit toujours se justifier aussi quand il se passe quelque chose loin d'ici? Reconnaître aussi cette reconnaissance pour moi, en tant que maintenant citoyen, neuchâtelois et musulman, la question que je peux me poser, c'est est-ce qu'un jeune qui s'appelle Mohamed ou Mouloud, est-ce que ça va lui faciliter sa vie ici, dans le canton? Donc, avoir accès à un logement facilement et ne pas être discriminé au niveau du travail. Ça, ce sont des questions concrètes qui vont préoccuper les citoyens et lambda et pas forcément le monde politique. J'ai une crainte, c'est l'histoire du référendum. J'en ai déjà parlé au niveau de l'UNOM. Aujourd'hui, on voit bien que même si la reconnaissance passe au niveau du Grand Conseil, on a bien vu comment vote le peuple neuchâtelois, qui est un peuple très, tout à fait libre. On a vu l'histoire des deux hôpitaux. On a vu ce qui se passe aujourd'hui. On voit aussi les prochaines votations en septembre. Et aussi, on voit effectivement, avec ces prochaines votations, le peuple risque de dire non à ce qui va être discuté au niveau du Grand Conseil. Dernière chose que je voulais encore dire, c'est effectivement l'histoire de la procédure administrative, ça nous aurait bien arrangé, mais quoi qu'il en soit, nous, on reste vigilants, mais encore une fois, j'aimerais quand même poser la question concrètement aux interlocuteurs qui sont là, est-ce que vous croyez que vous, si vous êtes un patron d'entreprise, et avec cette reconnaissance, vous allez faciliter plus facilement l'accès au travail aux musulmans? Merci.
Merci beaucoup. Là, effectivement, c'est une question qui est un petit peu différente de l'intégration des communautés religieuses. C'est clair que c'est un autre débat. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que... Oui.
Oui, très bien. Juste une petite remarque par rapport à d'autres projets, des lois pour la reconnaissance des communautés religieuses ici en Suisse, parce qu'il y a eu déjà dans le passé des votations au niveau des cantons. Et puis, par exemple, en 2003, c'était le canton de Zurich qui a rejeté une telle proposition avec 55%. En 2015, le canton de Berne a publié un rapport où ils disent qu'ils veulent pas créer une telle loi pour la reconnaissance des communautés religieuses même. Voilà, si peut-être c'est désirable. Et puis aussi, dans le canton de Lucerne, il y a eu un rejet d'une motion qui a aussi demandé de préparer une loi sur la reconnaissance des communautés religieuses. C'était en 2014. Alors, vous voyez, il y a vraiment, dans tous les cantons en Suisse, on discute sur sujet. Et puis, je pense qu'on va bientôt discuter sur la proposition neuchâteloise et voir qu'est-ce qui va se passer, si la loi va être adoptée, peut-être encore changée. Mais déjà là, on a aussi la possibilité de faire un référendum contre cette loi. Alors, voilà.
Voilà, exactement. C'est la question que j'allais poser parmi les personnes qui suivent, peut-être aussi Monsieur Mahon. Est-ce que on a l'impression que cette loi aurait une chance d'être rejetée par le Grand Conseil?
Pourquoi vous dites une chance?
Non, mais je pense pas. Mauvaise chance, enfin.
Non, apparemment, le Grand Conseil, il prendra sa décision. Donc, il y a une volonté politique, je crois, pour l'instant, d'avoir une telle loi. Elle sera discutée, hein, cette loi au Grand Conseil, certainement. La question du référendum aussi, de la clause référendaire, qui peut y être ajouté si 35 députés le demandent, donc au décret de reconnaissance ou de non-reconnaissance. C'est des questions qui seront évidemment, je crois, débattues. Elles sont, à ma connaissance, débattues maintenant au sein de la commission du Grand Conseil, une commission ad hoc. Après, est-ce qu'il y aurait un référendum contre la loi ? Je le vois pas très bien. Disons, je vois pas très bien, mais on sait jamais. Il peut y avoir un référendum contre la loi. Mais ça me paraîtrait... J'ai pas entendu pour l'instant qui que ce soit qui ait déclaré vouloir lancer un référendum contre la loi si cette loi était adoptée par le Grand Conseil. Mais évidemment, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais j'ai l'impression qu'il y a un certain consensus. Les dispositions constitutionnelles qui prévoyaient justement la reconnaissance, cette possibilité de reconnaissance, il y a quand même plus de 16 ans maintenant, puisque la Constitution date de 2000... Elles n'ont pas été fortement combattues. Elles n'ont pas non plus été très rapidement mises en œuvre.
Justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Pourquoi est-ce que ça a mis tellement de temps? Là, ça va mettre presque 20 ans entre l'idée de reconnaître d'autres communautés et la discussion du projet de loi devant le Grand Conseil et la mise en œuvre de cette loi.
Alors, il y a eu une petite explication de M. Favre tout à l'heure, puisqu'il y avait déjà une demande... très très rapidement après l'adoption de la nouvelle constitution, et puis ça, les travaux ont commencé assez lentement et gentiment, ils ont pris du temps, il y a eu beaucoup de discussions, etc. Mais il n'y a pas très très longtemps, à ma connaissance en tout cas, que on a pris ça au sérieux et puis qu'on a commencé à mettre sur pied un projet de loi. Il y avait une proposition des trois églises reconnues qui était sur le tapis. Puis ensuite, il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place par le Conseil d'État. Et puis, ça fait quelques années maintenant qu'on y travaille de manière sérieuse. Mais pendant longtemps, il n'y avait apparemment pas de besoin. La Constitution ouvrait la porte, si vous voulez, puisque c'est au fond elle qui a ouvert la porte. Et puis, il n'y a pas eu de travaux pour mettre en œuvre ces dispositions parce que il n'y avait pas un besoin. Alors, peut-être je me trompe là-dessus. Je ne sais pas si M. Favre est d'un autre avis, mais il y avait visiblement pas une pression très forte pour que les choses bougent. Maintenant, la pression est plus forte et les choses ont commencé à bouger.
Merci beaucoup. Là, il me semble que j'ai cru comprendre que c'était vous qui aviez vraiment mis la pression, c'est ça ?
Comment dire ? C'est toute une dynamique à l'intérieur des églises évangéliques de sortir d'une certaine marge pour s'impliquer dans la société. Pour s'impliquer à différents niveaux d'ailleurs, beaucoup d'évangéliques maintenant sont impliqués en politique, c'était moins le cas il y a une cinquantaine d'années en arrière, ou une centaine d'années en arrière, donc il y a toute une démarche dans ce sens-là. Mais c'est pas forcément exercer une pression, c'était simplement faire valoir la possibilité qui existait, elle n'existait pas, puisque la loi n'existait pas encore, c'était simplement un principe constitutionnel. Et après on a réitéré nos demandes et puis à un moment donné on a rencontré un conseiller d'État qui était plus favorable, peut-être plus, qui nous a dit bon ben c'est vrai, il faudrait pas attendre aussi longtemps que la loi sur le congé maternité qui a mis des décennies à être, enfin la Constitution le prévoyait au niveau fédéral mais la loi n'existait pas. Donc à un moment donné il y a une prise de conscience, si la Constitution a admis un principe, il faudrait quand même que on puisse ensuite l'appliquer. Donc c'était ça la motivation. Mais c'est vrai qu'en discutant aussi, par exemple, à un moment donné avec une conseillère d'État, elle me disait, mais le risque aussi, c'est où mettre les limites. Imaginons, alors je ne sais plus quel exemple elle donnait, mais imaginons un culte ésotérique très particulier, peut-être les adorateurs du soleil. Est-ce qu'on devrait les reconnaître? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va tout reconnaître? Et c'est vrai que là, maintenant, avec la loi telle qu'elle est prévue, on ne dit rien sur les fondements théologiques, et je pense que c'est normal. Mais en même temps, on peut comprendre qu'il y ait des inquiétudes, on peut comprendre qu'il y ait des discussions, on peut comprendre que... donc il y a un peu tout ça là derrière. Il y a évidemment qu'il y a des craintes, on l'a senti aussi. Alors comment ça se passera le jour où effectivement la population sera appelée à voter, enfin à se prononcer sur telle ou telle communauté religieuse? C'est impossible à dire. C'est la crainte qui est exprimée face aux musulmans, on pourrait l'exprimer aussi pour les évangéliques. Certains évangéliques sont bien perçus, d'autres moins, donc on ne sait pas. Mais si d'aventure on devait ne pas être reconnu, ce serait un indicateur aussi intéressant pour nous. Ça montrerait qu'il y a encore un grand travail à faire, ça nous remettrait nous-mêmes en question. Donc moi, ça me fait pas peur sous cet angle-là. Mais c'est clair que le risque existe. Mais je suis pas sûr que ce soit négatif en soi, de laisser au final la population décider, parce que c'est un reflet de quelque chose qui serait latent. Je dirais quand même que les églises reconnues nous ont fortement motivés, on est aussi en bonne relation, mais tant l'église catholique chrétienne, catholique réformée, nous ont fortement motivés depuis des années à avancer sur ce dossier. C'est d'ailleurs eux aussi qui sont consultés premièrement dans les commissions et qui ont été favorables à la reconnaissance des autres communautés religieuses. Et finalement, par rapport aux autres cantons qui n'ont pas accepté, il y a quand même une grosse différence, c'est que dans les cantons de Zurich ou Berne, il y a des incidences financières très conséquentes. Ça veut dire que la manne financière serait répartie sur toutes les communautés religieuses, ce qui ne va pas être le cas dans le canton de Neuchâtel. Il n'y aura aucun avantage financier, sinon la possibilité de demander des subventions dans des cas très particuliers, mais c'est encore toute une autre question. Ce n'est pas du tout sûr que ce soit accordé. Et dans le canton de Vaud, la loi a été adoptée, le canton de Vaud est avancé, plus avancé, il n'y a pas non plus d'incidence financière directe. La possibilité d'avoir des soutiens financiers pour certaines missions, par exemple caritatives, c'est toute autre question. Alors qu'à ma connaissance, dans les cantons de Zurich ou Berne, là, les ecclésiastiques... Parce que ce sont des églises reliées à l'État, et donc ils bénéficient d'un soutien de l'État pour payer les prêtres et les pasteurs, ce qui n'est pas le cas dans le canton de Neuchâtel. Donc, c'est aussi pour ça qu'à mon avis, cette loi a beaucoup plus de chances de passer.
Merci beaucoup. Vous avez un micro si vous voulez intervenir.
Alors, je voulais peut-être répondre à monsieur aussi. Je suis certain que si cette loi est acceptée, ça ne va pas résoudre les problèmes qu'auront des musulmans ou des gens de couleur, ou ça ne va pas enlever le racisme général dans la société neuchâteloise. Malheureusement, pas de miracle. Par contre, c'est quand même un signal politique. C'est quand même quelque chose qui c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui va dans un sens d'une reconnaissance, donc d'une reconnaissance de chacun aussi à titre individuel. Et puis, ben, une reconnaissance, une intégration, ça prend du temps. J'ai raconté le long chemin de la communauté juive qui a eu les difficultés qu'elle a eues avec l'antisémitisme. Actuellement, c'est plus le cas, donc on est bien accepté, mais il a fallu un très long temps. Donc il faut malheureusement accepter cette lenteur. Par contre, je trouverais pas intelligent de dire qu'on va pas faire cette loi de peur que le peuple le refuse. Parce qu'alors, ce serait absurde. Moi, je suis plus confiant du peuple neuchâtelois. Si par hasard, les neuchâtelois devaient voter par rapport à cette intégration, moi, j'ai globalement assez confiance en eux. Et comme disait monsieur, si elle devait refuser, eh ben, peut-être qu'il faudra plusieurs étapes. On a vu Moutier qui est rentré dans le canton du Jura maintenant. Eh ben, ça a pris du temps aussi. Il a fallu plusieurs votations. Si c'était le cas, peut-être il faudra insister.
Merci beaucoup.
Bonsoir, je suis Nicolas Blanc, théologien de l'Église catholique. J'ai une remarque et puis une question. La remarque, il me semble, mais ça a déjà été souligné, c'est il y a peut-être des distinctions importantes à faire. Il a été question de discrimination ou de racisme, et ces choses-là, de fait, je ne crois pas qu'elles ont grand-chose à voir avec cette loi de reconnaissance des communautés religieuses. S'il y a un cas de discrimination au travail, ça relève de la justice ou du droit du travail. De même pour les questions de liberté religieuse qui sont fondamentales et qui sont reconnues dans la Constitution. Donc je ne crois pas que ce soit l'enjeu véritable de la proposition de loi. De même, pour ce qui est de la reconnaissance, on parle beaucoup de la reconnaissance. Il me semble qu'il y a un danger à imaginer que c'est une reconnaissance symbolique. Je crois que ce que la loi propose, c'est une reconnaissance des communautés dans l'ordre de l'intérêt général ou de l'intérêt public. C'est ce qui est dans la Constitution et c'est ce qui est reconnu aux églises, c'est-à-dire qu'elles sont des partenaires sociaux. C'est cela que ça veut dire. Ça veut dire que ces églises sont engagées, comme vous le disiez, mais auprès des malades, auprès des personnes dans la rue, auprès des prisonniers, etc., auprès de tout le monde, indifféremment d'ailleurs de leur appartenance religieuse. Donc, c'est tout ce que l'Église propose au niveau social qui est reconnu. Et je ne crois pas que ça ait un lien, même si ça peut avoir un effet de conséquence, direct avec ce qui est de l'ordre de l'intégration, où je m'exprime autrement. Si, par exemple, une communauté religieuse n'est pas reconnue d'intérêt général, pour moi, ça ne veut pas dire qu'elle est rejetée. Ça veut simplement dire peut-être qu'elle ne remplit pas les conditions telles que la loi le prévoit, qu'elle n'a pas suffisamment de personnel pour fournir toutes ces prestations sociales. Ça ne veut aucunement dire qu'il y a un manque d'ouverture ou qu'il n'y a pas un désir de se rencontrer. Et pour terminer là-dessus, il y a peut-être des initiatives à prendre dans l'ordre associatif ou dans l'ordre de ces différentes communautés religieuses ou dans l'ordre des événements pour faire mieux connaître nos richesses respectives qui n'ont pas directement de lien avec une reconnaissance légale d'un intérêt public. Voilà, ça, il me semble que c'est des distinguos importants à faire. Sinon, on passe très vite de je ne suis pas reconnu, donc je suis discriminé, donc etc. Je crois qu'il y a des choses importantes là à souligner, mais ça a été fait. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il en est, ça a déjà été un petit peu abordé, qu'est-ce qu'il en est dans l'ordre du contenu plus proprement théologique, c'est-à-dire d'une part la reconnaissance de communautés religieuses peut-être inconnues ou aux propos plutôt étranges, et d'autre part, qu'est-ce qu'il en est des enseignements qui sont dispensés par certaines communautés? Est-ce que l'État va proposer des formations pour les personnes qui auront charge d'enseignement dans ces communautés? Voilà, comment est-ce qu'on envisage finalement cette reconnaissance en lien avec l'État, en maintenant cette séparation où l'État finalement continuera à respecter la liberté d'enseignement des différentes communautés?
Merci. Est-ce que Stéphanie Courte, vous pouvez répondre? J'aimerais bien que non, mais ce qui m'intéresserait, c'est que vous répondiez quand même sur les liens entre intégration et reconnaissance, parce que finalement, c'est exactement le thème de votre petit papier. Donc peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Monsieur.
Oui. Oui, moi on entend. Tout d'abord, par rapport à votre question, j'ai juste vérifié la loi. La proposition de la loi dit rien là-dessus, mais je pense qu'il faut plutôt aller chercher dans la loi sur l'école publique, par exemple. Et je n'ai pas cette loi ici, désolée. Donc je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a la réponse. Concernant vos remarques, alors tout d'abord, la loi s'appelle, ou intitulée, « Loi sur la reconnaissance des communautés religieuses ». Alors là, on retrouve le mot « la reconnaissance ». C'est clair, on parle de la reconnaissance comme une institution d'intérêt public. Voilà, c'est pas comme la reconnaissance en droit public. Il y a des différents modèles qui s'appliquent. Ça, c'est comme institution publique, si je prononce ça juste en français. L'effet personnel ou l'effet antidiscriminatoire, voilà, pour les membres, pour des communautés religieuses qui sont reconnues. Je pense là, on va retrouver un effet. Pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà dit avant, avec la reconnaissance, ça veut aussi dire que les cantons disent, voilà, on vous accepte, on vous reconnaît, on vous donne certains droits. Vous avez des privilèges et puis on va continuer à collaborer ensemble et c'est inscrit dans la législation cantonale. Et ça, c'est quand même un signe beaucoup plus fort si le canton dit on travaille avec vous parce que vous faites un bon travail. Je pense déjà là, il y a quand même, c'est un effet différent. Et c'est pour ça, je pense, la procédure de la reconnaissance est très importante. Et après, si une fois une communauté est reconnue au niveau de la loi, la législation, c'est clair qu'il y a aussi un effet sur les membres, sur les représentants d'une telle communauté, mais après aussi sur les membres. Parce que c'est comme c'était dit aujourd'hui aussi, c'est aussi une forme de citoyen, une forme de la possibilité de participer beaucoup plus actif parce qu'on sait, on est reconnu par l'État ou par le canton. Et ça pourrait avoir des effets positifs. Je dirais comme ça. C'est pour ça, peut-être, là, il va y avoir un petit peu une sensibilisation pour certains sujets qui tombent après sur d'autres sujets. Mais il faut le tester.
Bon. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette question? Oui.
Marc-André Nardin, député. Le constituant, en l'an 2000, a laissé deux questions ouvertes. D'abord, de savoir qui était compétent pour reconnaître la communauté religieuse, dans les débats devant le Grand Conseil, au moment de l'adoption de la Constitution de l'an 2000, la question a été expressément laissée ouverte. Elle a été renvoyée à l'adoption de la loi future. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est le moins ou le plus discriminant si on est reconnu par un corps législatif ou par une autorité exécutive. Si on est reconnu par une autorité exécutive, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas éventuellement un recours devant un tribunal. Et aboutir à la conclusion que c'est un tribunal qui va décider de la reconnaissance d'une communauté religieuse pose un grave problème de l'interprétation démocratique d'une constitution. Donc la voie administrative n'est, a priori, pas une bonne voie. Reste la voie législative. La deuxième question qui a été laissée ouverte par le constituant de l'an 2000, c'était de savoir si le référendum, qui peut s'appliquer selon l'article 41 et 42 de la Constitution à toutes les lois votées par le Grand Conseil, donc facultatif, devait automatiquement s'appliquer à la décision de reconnaissance. Et là, le Conseil d'État a dans la loi pris une position médiane. Il a naturellement, à l'heure actuelle, en adoptant la loi qui va être débattue devant le Grand Conseil, il ne peut pas, elle, la soustraire au référendum facultatif. Mais par contre, il a dit que si cette loi est acceptée, et ensuite que le décret de reconnaissance est pris par le Grand Conseil, il y a référendum possible si 35 députés le demandent. Donc doit se poser la question ensuite de savoir si un droit de la démocratie directe peut dépendre de représentants de la démocratie indirecte. Il y a quand même des questions fondamentales à traiter. Puis la dernière question, c'est de savoir si la question du référendum et de l'acceptation de la communauté religieuse doit être éludée en rendant aussi difficile que possible l'exercice d'un référendum, ou au contraire, s'il y a référendum, c'est une véritable reconnaissance ensuite de la communauté si jamais le peuple demande le référendum. Ce sont là les questions que la Commission doit débattre, et ce sont des questions qui sont des questions complexes, des questions avec des sensibilités politiques fort diverses qui traversent tous les partis, et voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais le débat, à mon avis, il doit porter sur ces deux éléments fondamentaux, ces deux pivots fondamentaux. Ensuite, on peut naturellement discuter des effets de la reconnaissance. Je vous rends quand même attentif au fait que les trois églises qui ont été institutionnellement et constitutionnellement reconnues dans la Constitution de l'an 2000 ont dû passer des concordats concernant les effets de leur reconnaissance constitutionnelle et que ces concordats, selon la Constitution, étaient soumises au référendum facultatif. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et je crois que, avant toute chose, c'est excellent que le débat se passe dans la collectivité publique, qu'on en discute à tête reposée, sereinement. Il vaut mieux discuter qu'à la hâte prendre une loi que l'on applique ensuite et dont on ne soupèse pas totalement toutes les conséquences.
Merci beaucoup.
J'aimerais juste revenir sur la question qui a été posée par rapport au contenu théologique. Même si en tant que bouddhiste, je ne peux pas vraiment parler de théologie. Voyez-vous, nous, on a un sérieux problème, les bouddhistes, parce qu'on subit un peu un effet de mode. Et la pratique du zen, notamment, est aujourd'hui confondue avec des pratiques thérapeutiques ou des pratiques de bien-être. Il est extrêmement difficile pour nous de faire la différence. Et être reconnu en tant que religion, oui, moi personnellement ça m'intéresserait pour pouvoir faire ces différences-là. Ça me paraît extrêmement important. Mais qui va être compétent pour décider de ces contenus théologiques, entre guillemets? Qui va être compétent pour décider qu'est-ce qui peut être enseigné ou ce qui ne peut pas être enseigné? Et qui va former les enseignants?
Merci beaucoup. Est-ce que, Madame Courte, vous avez quelque chose, un commentaire sur ce? Oui.
Masu Dutunji, Je suis curé de la paroisse catholique chrétienne du canton de Neuchâtel, donc une des communautés religieuses qui a le statut donc d'église reconnue à l'heure actuelle par la Constitution. C'est important de le dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Une petite critique et puis deux remarques. Effectivement, du fait que l'Église, que les trois Églises reconnues ont soutenu, notamment par leur volonté, ont soutenu justement le projet de loi et aussi son ouverture du fait que nous avons été consultés. Donc les trois communautés, les trois Églises reconnues ont été consultées par les autorités politiques pour l'élaboration de la loi. Et on a justement soutenu vraiment cette volonté d'ouverture et aussi faire en sorte que le statut soit le plus équivalent possible. On va dire ça comme ça. Donc essayez vraiment de mettre ça en avant. Donc ça, c'était justement une de nos contributions aux autres communautés. Donc moi, j'aurais bien voulu qu'un de nos représentants soit invité. Mais bon, c'est juste une petite remarque comme ça. Voilà, c'est tout. Mais, voilà, c'était la critique. clarification. Donc justement, je crois que ce qui est important de dire, c'est que la loi, c'est une loi, c'est pas une constitution. Donc il va de toute façon avoir une différence qui existe entre une reconnaissance constitutionnelle et une reconnaissance législative. On change pas une loi comme on change la constitution. Donc il y a de toute façon une différence parce que l'enracinement législatif n'est pas le même. Donc il y aura de toute façon une différence, malheureusement. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une communauté religieuse qui est reconnue, il faudrait changer la constitution. On peut, mais c'est compliqué. Parce que changer une constitution, on a vu ce que ça a donné en 2000. C'est pas toujours forcément facile. Voilà. Ça, c'était une chose. Et puis, donc, ça, c'était la première remarque. Et puis, la deuxième remarque. Oui, concernant le contenu théologique. Je pense que pour respecter cette laïcité, l'État doit surtout ne pas s'intéresser au contenu théologique. Il doit simplement utiliser des critères qu'il applique à tout le monde. Autrement, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi qui s'applique à tout le monde, justement. C'est ça, justement, pour moi, un des problèmes. Il a des critères qui sont présents sur la table et il doit simplement les examiner les uns après les autres. Autrement, il n'est plus laïque. Autrement, il est plus juste. Il n'applique plus la loi qu'il s'est fixée lui-même. Voilà. C'était ça mes remarques.
Merci beaucoup. Et puis, effectivement, on n'a pas pu inviter tout le monde. Je savais que... Non, mais vous avez parfaitement raison. Il aurait fallu avoir des représentants beaucoup plus larges. Je me permets de vous poser une autre question qui est peut-être, je ne sais pas ma spécialité, mais qui est peut-être une question théologique, et ça m'intéresserait d'avoir votre réaction, c'est la position justement de votre minorité mennonite, et une des raisons pour lesquelles elle ne va pas faire la démarche de la reconnaissance en tant qu'institution d'intérêt public, c'est qu'elle dit, mais écoutez, si je me lance dans cette démarche, je reconnais implicitement que toutes les religions se valent. Et moi, je suis pas d'accord. Voilà, vous comprenez? Dire, voilà, moi je suis, voilà, nous sommes une communauté chrétienne. Nous avons une foi que nous considérons comme être la seule vraie foi. Si je fais cette démarche, implicitement, je reconnais que les autres ont aussi raison. Je ne sais pas si j'ai bien résumé leur position, puisque vous êtes, vous, les chapeautés.
Bon, on ne les chapeaute pas tout à fait, puisqu'ils ont un avis différent. Mais donc, l'Église mennonite a un parcours assez particulier, comme je l'ai dit tout au début, pour des raisons historiques. Je pense que le principal argument n'est pas là. Le principal argument en discutant avec eux, c'est de dire que de tout temps, l'autorité a eu un rapport au religieux qui était pour le moins problématique. C'est-à-dire que, bon, aussi dans leurs documents, les Mennonites vont parler du Christ qui a été crucifié avec l'aval des autorités. Donc il y a toujours un lien avec les autorités problématiques, et en particulier pour les minorités religieuses. Donc il y a une prudence de fond. même une prudence philosophique, on peut dire, ou théologique, qui est là et qui... Les Mennonites se comprennent comme protestataires. Les Mennonites, par exemple, étaient contre le service militaire pendant des siècles. Même jusqu'à aujourd'hui, les Mennonites ont été les promoteurs du service civil, par exemple. Donc, les Mennonites ont toujours un rapport face à l'État assez particulier, tout en étant tout à fait partenaires, enfin en étant des citoyens remarquables. Donc, mais je pense pas que cette crainte soit vraiment par rapport aux autres religions. De toute façon, les autres confessions existent. À ma connaissance, alors je suis un petit peu étonné d'entendre ce point de vue-là. Mais forcément, il y aura une diversité des points de vue. Et nous, pour nous, c'est pas gênant. Après, la question va se poser par rapport à des communautés comme les Mennonites qui n'aimeraient pas être reconnues, alors qu'éventuellement la FEN le serait. Qu'est-ce qui alors adviendrait? Est-ce que la FEN va être reconnue en tant que telle, ou est-ce que chaque église, à chaque association, demandera une reconnaissance? Ça, c'est pas encore clair. Surtout dans un petit canton comme le nôtre, si vous voulez, les églises libres, par exemple, ont quelques communautés, l'Armée du Salut, quelques communautés aussi, mais d'autres, parfois, n'en ont qu'une. Il n'y a qu'une seule communauté mennonite dans le canton, par exemple. Donc, comme le canton Neuchâtel est petit, ce serait plus simple que ce soit la Fédération évangélique qui soit reconnue en tant que telle. Je pense que ce serait plus simple pour nous, ce serait plus simple pour l'État aussi. Mais ça, c'est des questions qui n'ont encore pas été, à ma connaissance, débattues. Et le cas échéant, si les mennonites ne voulaient vraiment pas être reconnus, ben, libre à eux, je dirais. Alors peut-être que les mennonites auraient un rôle, enfin, seraient amis de la FEN et plus membres, mais voilà. D'ailleurs, ils sont membres de la COTEC aussi, de la communauté œcuménique. Enfin, ils sont très. C'est pour ça que je corrige un peu, parce qu'ils sont tout à fait partenaires du dialogue interreligieux, partenaires œcuméniques. Enfin, ils sont très impliqués. Leur position, elle est très très réfléchie, elle est très subtile même. C'est pas du tout un refus de la société.
Merci beaucoup. Est-ce que oui?
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai une remarque par rapport aux effets de la reconnaissance. Donc, Rabbi Amor, je suis mentor, j'accompagne des jeunes majoritairement musulmans depuis quelques années à Neuchâtel. Et puis, j'entends ces jeunes et leur inquiétude, c'est cette question de reconnaissance. En fait, ils disent, nous sommes des citoyens de confession musulmane, mais sur le champ de l'apprentissage, du travail, à l'école, il n'y a pas cette reconnaissance. Et donc, par rapport à ces jeunes, la reconnaissance, elle est très importante. Je prends un exemple, peut-être le mouvement de scouts, puisque je suis chef scout, puis je suis un membre du groupe El Fajr, qui est le seul groupe de scouts musulmans de la Suisse, reconnu à Neuchâtel. Donc, on fait partie du mouvement scout suisse. Nous sommes aussi membres de l'association de scouts neuchâtelois. Nous sommes des scouts suisses musulmans. On fait des formations avec les scouts, les autres groupes de scouts religieux ou bien laïcs. À Neuchâtel, il y a 17 groupes de scouts, il y a 12 laïcs, 4 chrétiens et puis un musulman. Et donc, le mouvement de scouts, il peut donner une idée que le vivre ensemble peut exister, on peut être reconnus tous et puis travailler en même temps dans un seul projet. Voilà.
Oui, Dobelli, j'ai le plaisir de présider la CSM, la Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle, ainsi que le groupe de contact musulman dont M. Chérif a fait allusion tout à l'heure. Et nous avons été sollicités également dans le cadre de la procédure de consultation de cette loi, et à l'unanimité, nous avons appuyé la loi. À titre personnel, je l'appuie également, mais j'observe que dans ma famille politique, ce n'est pas forcément l'unanimité. Et dans ce contexte-là, je pense que cette loi ne va pas passer comme une lettre à la poste au niveau du Grand Conseil. Enfin, c'est un sentiment que j'ai. En lien avec ce qu'a dit tout à l'heure M. Bass, en lien avec l'apport de l'islam et la présence de l'islam. S'agissant, et c'est pour ça que je voulais intervenir, s'agissant des compétences, et dans ce contexte que j'évoque, avec j'entends certaines réticences certainement sur l'acceptation de cette loi, je pense que la compétence devrait rester au niveau du Grand Conseil, parce que ça donne, ça représente un garant, ça représente également, et on ne doit pas avoir peur du débat démocratique. Et si quelquefois, si quelque part il devait y avoir un référendum, je crois qu'on doit accepter ce débat politique. Et j'ai l'impression que ça serait pas forcément bien reçu que la compétence soit attribuée, que ce soit une compétence administrative, en lien justement avec les personnes ou les structures ou les associations qui sont peu enclines à entrer en matière sur cette reconnaissance.
Julia Moreno, je travaille à la Fédération catholique romaine. Je remarque que nos intervenants ne sont pas en fait très enthousiastes ou n'ont pas vraiment nécessairement besoin très rapidement d'être reconnus par l'État de Neuchâtel, peut-être à part peut-être les communautés musulmanes qui ont l'air un peu plus pressées. Point de vue financier, point de vue enseignement, rien ne presse. Alors, je comprends que la loi, que le projet ne soit pas développé rapidement, mais comme sociologue, parce que je suis sociologue, je me dis qu'en l'an 2000, on ne parlait pas tellement de religion, en fait, dans la société suisse et ici à Neuchâtel. Et tout à coup, maintenant, par tout ce qui se passe dans le monde, il y a une cristallisation autour des religions, et on parle des religions. Et je pense que peut-être que cette reconnaissance, c'est une reconnaissance sociale. Monsieur Chérif en a parlé, c'est-à-dire un resserrement des rangs à l'intérieur, dire, ben voilà, on est constitué comme ça et on est reconnu. Et puis aussi, par rapport à la population. Donc, s'ouvrir aux autres en disant, comme aussi disait Madame Morales, on n'est pas des thérapeutes de l'âme avec des massages et des choses comme ça. Et cette double communication à l'interne et à l'externe, eh bien, cette visibilité-là pourrait la donner. Je pense que c'est peut-être, je ne vais pas répondre à votre place, mais en tout cas, si vraiment cette reconnaissance sert aussi à ça, je pense que c'est aussi positif. Et c'est plutôt ça, je crois, que tous les autres arguments.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce café. Je vais encore vous laisser à chacun des invités donner le mot de la fin. Et j'ai pas, alors peut-être que j'ai pas ressenti le débat comme vous, mais j'ai pas eu du tout l'impression que les gens étaient peu enthousiastes pour la reconnaissance. Alors dites-moi pour la fin, est-ce que l'enthousiasme, quel est le degré d'enthousiasme pour faire la démarche de la reconnaissance?
Non, on est tout à fait enthousiaste à l'idée d'être reconnu. Par contre, c'est vrai, comme ça a été dit par plusieurs, ça modifiera pas de beaucoup la vie quotidienne des communautés. Quand même sur un point, par exemple, très court, on avait, par exemple, nos annonces de culte qui étaient publiées par l'Express l'Impartial, et un jour, on nous a dit, elles vont être supprimées. Et la raison, c'était, vous n'êtes pas une église reconnue. Alors, on s'est mobilisé, on a écrit une pétition, et le fait qu'on ait déposé une demande de reconnaissance d'intérêt public a fait qu'on a pu continuer d'être les cultes ont continué d'être publiés, mais c'est des petites choses comme ça, donc ça porte pas grandement à conséquence, mais quand même on se rend compte que par rapport à toutes sortes de petites décisions de la vie courante, ça peut faciliter les choses. Alors oui, enthousiasme, oui, d'un côté, parce qu'on n'y voit pas d'inconvénient. Après, ça a été dit, ça changera pas fondamentalement notre vécu quotidien.
Oui, est-ce que je suis enthousiaste? Je pense que c'est difficile à répondre en tant que juriste. Je pense que c'est une belle proposition d'une loi qui est très bien faite. On verra les débats politiques bientôt en automne. Si ça reste une décision politique pour la reconnaissance, ça reste une décision politique. En tant que juriste, je dis quand même que la procédure administrative, c'est un chemin qui permet d'avoir, pas avoir des décisions discriminatoires. Mais sinon, je pense que c'est vraiment une belle loi, c'est une belle opportunité. C'est aussi une belle opportunité de parler sur le sujet de la religion, comme c'était dit avant. Et je pense que c'est important qu'on commence à parler de la religion, mais si on peut le connecter avec cette loi, c'est encore plus magnifique.
Merci. Moi, je dirais qu'on est enthousiaste, bien sûr. Mais je dirais aussi que la reconnaissance des communautés religieuses et offrir ce cadre légal à travers le projet proposé renforcera davantage les liens avec les autorités, avec la population, et donne plus de confiance, surtout aux jeunes musulmans. Hein, donc ça, à souligner. Mais le cas contraire, si on n'a pas cette reconnaissance, etc., ça ne va pas diminuer notre aussi confiance, parce que la qualité d'échange, communication avec l'autorité est vraiment excellente. On a de la chance dans le canton de Neuchâtel, comparé à d'autres cantons.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la loi passe ou qu'elle passe pas. Je pense que le dialogue est là et l'ouverture est là. C'est pas que je sois pas enthousiaste. Effectivement, ça changera pas grand chose pour nous. Mais cette loi correspond complètement aux valeurs que nous représentons et que nous vivons. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Si elle passe, c'est super.
Alors, j'ai peut-être pas montré beaucoup d'enthousiasme parce que, je l'ai dit, ça va pas changer grand-chose pour notre communauté. Mais en vrai, c'est quelque chose de tellement important que la société civile reconnaisse l'importance du religieux. Si je pense aux anciens membres, qu'auraient dit les membres de notre communauté il y a une centaine d'années, certainement ils ne pouvaient même pas s'imaginer qu'un jour le canton de Neuchâtel allait reconnaître. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Et on serait malheureux si cette loi n'était pas acceptée, mais on sera patient.
Merci beaucoup. Donc, on peut dire que, en tout cas, symboliquement, c'est très, très important, même si dans la pratique, ça ne va pas changer énormément de choses, mais symboliquement, c'est extrêmement important. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat. Igor, tu veux encore annoncer le prochain café?
Oui, tout à fait. Alors, comme vous le savez, ben, c'est la pause estivale. Donc, je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 20 septembre ici même, où nous parlerons des jardins de ville pour saveur des champs, donc ces initiatives citoyennes de cultiver en ligne pour, après la nourriture spirituelle, voilà, se parler un peu de nourriture concrète terrestre, plus terrestre. Et donc, je vous invite à profiter en attendant du bel été, de prendre toutes les imprimés qui sont là à votre disposition concernant le sujet de ce soir. Et je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. Et donc, bon été. Vous allez retrouver, peut-être d'ici quelques jours, l'intégralité de l'enregistrement de ce café scientifique de ce soir. J'en profite pour remercier également Joël Morf qui assure la technique, donc l'enregistrement et le son dans cette salle. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous.